7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, on s'interroge sur la gratuité. Que cache la gratuité? Un internaute nous a écrit la fameuse phrase que tout le monde connaît peut-être, « Si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit ». Alors, la gratuité a-t-elle de l'avenir dans un monde marchandisé? On va en discuter avec nos invités. Thibault Liorade, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de la rubrique économie et entreprise à The Conversation. Vous consacrez un dossier à la gratuité et nous sommes partenaires de votre média d'information The Conversation. Peut-être juste un petit rappel, qu'est-ce que c'est que ce site d'information?
Alors, The Conversation, c'est un site qui ne publie que des articles signés par des enseignants-chercheurs ou des doctorants et dont le travail est édité par une équipe de journalistes professionnels dont je fais partie.
Voilà, et vous mettez la recherche à la portée de tous les internautes et tous ceux qui sont curieux de ces sujets qui nous touchent finalement quotidiennement comme la gratuité. Avec vous, Françoise Passerard, bonjour.
Bonjour.
Françoise Passerard, vous êtes professeure à Paris School of Business, justement le secteur de l'enseignement supérieur, autrefois considéré comme un bien commun, certes pas accessible à tous, mais est devenu en tout cas largement marchand, peut-être qu'on en parlera. Également avec vous Clarence Blounes, bonjour.
Bonjour.
De l'Université Paris-Dauphine. Vous vous intéressez au travail gratuit du consommateur, c'est-à-dire quand, par exemple, on débarrasse soi-même son plateau repas dans un fast-food, mais plus récemment aussi, des clients qui donnent un coup de main dans des entreprises, dans des coopératives, et vous nous direz comment est-ce qu'on arrive à faire travailler le client, finalement. Également, nous serons en ligne avec le maire de Dunkerque, Patrick Vergriette, qui a mis en place la gratuité totale des transports dans sa ville. On sera au téléphone avec Patrick Vergriette tout à l'heure. Et Julien Pillot, qui sera en ligne de Shanghai, spécialiste d'économie numérique et de stratégie d'entreprise à l'INSEC Business School. Il a d'ailleurs un podcast sur ce sujet qui s'appelle « C'est dans la boîte ». Et quant à vous, les voisins et les voisines, dites-nous ce que vous inspire la gratuité. Est-ce qu'un service gratuit est à vos yeux systématiquement dévalué, appauvri? Ou bien, surtout, vous pouvez aussi nous dire qu'est-ce qui devrait être gratuit dans votre pays? 33 1 84 22 71 71. Alors l'émission a commencé, on est en direct, ne nous laissez plus de messages audio sur WhatsApp, on ne peut pas les transférer dans le studio. Appelez-nous maintenant directement 33 1 84 22 71 71. Sur Instagram, on vous a posé la question, qu'est-ce qui devrait être gratuit dans votre pays ou votre ville? Vos réponses pour le moment sont les préservatifs et les serviettes hygiéniques féminines. Voilà, vous avez le sens des priorités, c'est pas mal. Et cette émission vous est dédiée, c'est vous qui faites le cœur aussi de l'émission avec vos réactions. 33 1 84 22 71 71. Je vous lis des messages postés sur les réseaux sociaux. Josué, qui est à Kinshasa, nous dit question gratuité. Je pense qu'en République démocratique du Congo, nous sommes encore très loin du compte. Le président Tshisekedi a lancé la gratuité de l'enseignement de base pour cette rentrée. C'était l'une de ses promesses de campagne. Faut voir, nous dit Josué. On en parle à longueur de journée. C'est la seule chose officiellement gratuite. Effectivement, il a raison, Josué. Moi, je le rappelle, la gratuité de l'éducation de base figure dans la Constitution en RDC. Elle n'a jamais été réellement appliquée. Il n'y a pas qu'en RDC, ceci dit. Mais c'est vrai aussi que la RDC, le Congo, est la championne du monde pour ce qu'on appelle les frais cachés de scolarité, avec notamment des frais de motivation des professeurs, qui est en fait un substitut de salaire payé par les parents, et qui maintenant est officiellement supprimé. Faut voir donc, comme dit Josué, affaire à suivre. Giscard est à Kinshasa, toujours en RDC. Il nous dit le transport devrait être gratuit pour le petit peuple. Ici, nous ne voyons pas le bénéfice de nos ressources naturelles. Allez, vous nous appelez en direct, 33 1 84 22 71 71, que vous inspire la gratuité.
Oui, la RFI.
7 milliards de voisins, on est toujours à l'écoute.
Et vous, que vous inspirent les commentaires des internautes, Thibault Liorade?
Eh bien, je connais pas spécialement la République démocratique du Congo, mais tout ce qu'on peut dire à ses auditeurs, c'est peut-être qu'ils utilisent déjà des services gratuits sans le savoir. Et je pense notamment aux services du numérique, qui sont aujourd'hui les exemples sans doute les plus flagrants de gratuité et de succès qui reposent sur cette gratuité. J'imagine qu'en RDC, ils utilisent Facebook, ils utilisent Google. C'est déjà une certaine forme de gratuité.
Ouais, est-ce que c'est vraiment gratuit? Évidemment, on va se poser la question. Alors, c'est quand même assez provocant de parler d'expérience expérience de gratuité, de concept de gratuité à un moment où quand même beaucoup, beaucoup de choses sont devenues payantes ces dernières années, non ?
C'est peut-être que cette gratuité, pour reprendre ces exemples de Google et Facebook, on les voit moins, c'est intégré aujourd'hui. Et c'est peut-être ce qui illustre les témoignages que vous avez reçus, c'est qu'on ne voit plus cette gratuité justement. Et les contreparties restent très très opaques sur ce qu'on livre à ces services qui restent gratuits. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça paraît tout à fait naturel.
Mais aujourd'hui, ça semble presque naturel de payer de l'eau relativement chère. Dans certains pays, on n'a que des semences stériles, il faut racheter des semences, alors que pour les agriculteurs, c'est très coûteux de racheter des semences d'une année sur l'autre. Par exemple, on paye aussi des autoroutes, des routes. On paye évidemment l'enseignement supérieur. On a des résidences privées où les rues sont privatisées aussi et on ne peut y accéder que si on a payé le logement assez cher. Les exemples, ils sont innombrables de privatisation et donc d'accès payant.
Bien sûr, mais je pense que aussi on est dans un contexte où l'économie se complexifie, les business models deviennent de plus en plus variés et si en même temps il y a des services qui effectivement deviennent de plus en plus payants, il y en a aussi tout un tas qui deviennent de plus en plus gratuits.
L'argument que quand c'est privé c'est mieux géré, c'est meilleure qualité et donc que le consommateur est gagnant, il est encore cet argument-là, il est réel, il est prégnant ou pas selon vous, Françoise Passerard ?
En fait, je crois que tout ce qu'on évoque là soulève le point, me semble-t-il, de l'éducation des citoyens et de l'éducation des consommateurs, et ce, probablement, dès la petite école. Vous preniez l'exemple de l'eau qui est payante et ça paraît naturel aujourd'hui. Il y a encore quelques décennies, l'eau avait encore sa valeur et on devait ne pas gaspiller l'eau. Aujourd'hui, vous prenez un verre d'eau, vous faites déborder ou vous en servez un petit peu pour arroser une plante. Ce qui reste, vous allez le jeter. Vous n'allez pas le mettre dans la cafetière pour le lendemain matin ou dans votre bouilloire pour faire chauffer de l'eau un petit peu plus tard.
Ouais. Si ce n'est sur le continent africain, là, je peux vous dire qu'on la gaspille pas parce qu'elle coûte
bien
quand
sûr.
Même très cher. Et plus on est pauvre, plus on la paye cher au mètre cube, d'ailleurs, hein, l'eau.
Mais ça, c'est toujours la double pénalité de la pauvreté. C'est que plus on est en difficulté financière, plus on est dans un contexte avec des difficultés d'accès aux ressources de base, aux ressources primaires, et plus tout nous coûtera cher. Et ça, c'est une injustice et une source d'inégalité profonde en fonction des pays, bien sûr.
Clarence Blounes, sur le fait qu'aujourd'hui, on a tendance à se dire que finalement, la gratuité, ce n'est pas un gage de qualité.
Je pense que ça dépend surtout de l'encadrement qu'il peut y avoir dans la gratuité. En fait, si on réfléchit en termes comptables, la gratuité réelle n'existe pas. Tout a un coût, que ce soit les services rendus par la nature ou les services rendus par la société. Et si quelque chose est gratuit pour un acteur, ça veut dire que d'autres acteurs vont supporter ce coût. Après, toute la question, c'est de savoir est-ce que il y a une discussion là-dessus. Est-ce que c'est légitime qu'un acteur, qu'une collectivité ou les consommateurs supportent ce coût, ou au contraire, est-ce que c'est une forme d'exploitation ?
C'est vrai que si on prend par exemple le cas de l'université française, qui coûte très peu cher, hein, une licence c'est 180 euros l'année, même s'il peut y avoir des frais annexes, on a souvent dit en France, ah oui, mais si on veut attirer des étudiants étrangers, notamment de l'Asie, il faut que ça soit plus cher, parce que sinon ils ne vont pas avoir l'impression que l'université française est de qualité. Vous l'avez déjà entendu ça, Thibault Liorade, non ?
Alors oui, effectivement, c'est vrai qu'en plus, l'enseignement, même dans les écoles de commerce, reste relativement peu cher par rapport à ce qui peut se passer dans d'autres pays, et notamment dans le monde anglo-saxon. Donc effectivement, c'est vrai qu'il y a un espèce de trésor caché là, que les responsables des business schools, notamment, hésitent à mobiliser. On sait que ça fait polémique, c'est une autre question, c'est est-ce qu'on peut légitimement le faire sur la qualité du service ensuite ?
Il faudrait peut-être aussi préciser à tout le monde, d'ailleurs, y compris les citoyens en France, que en fait, l'État dépense plusieurs milliers d'euros par an par tête d'étudiant. Hein, et c'est pour ça que ça coûte que 180 euros pour les autres, pour ceux qui payent.
Absolument.
En même temps, je crois que les universités publiques françaises gagneraient à utiliser les bons outils du marketing, parce qu'en marketing, on a des bons outils, pour mieux communiquer sur leur véritable valeur ajoutée au-delà du simple prix, au-delà du simple coût des frais de scolarité.
Qu'on donne le vrai coût de la scolarité par étudiant. Vous savez, votre scolarité, votre année, elle coûte tant, ne la gaspillez pas, même si c'est pas, même si vous en payez qu'une toute petite partie.
Exactement. Et il en va aussi de la notoriété de ces universités-là, en particulier à l'étranger, et de l'ensemble de l'enseignement supérieur, privé comme public.
Allez, on part au standard 33 1 84 22 71 71. On écoute un message images postées sur le serveur WhatsApp juste avant l'émission.
Bonjour les voisins et les voisines. C'est votre frère Mahamadou Boiré depuis Bamako. Ici au Mali, nous avons un proverbe qui dit « Au lieu d'habituer une personne à lui donner des poissons, apprends-les plutôt à pêcher. » Cela traduit que le meilleur cadeau qu'on puisse donner à une personne est l'éducation, la formation, l'instruction, la morale, le conseil, etc. etc. Deuxièmement, il faut aussi souligner qu'il est nécessaire de se méfier aux cadeaux, surtout matériels, parce qu'ils peuvent constituer une prison sans mur. Quand chaque fois une personne vous donne des cadeaux, vous allez vous sentir inobligé de cette personne. Et le jour où il viendra vous demander quelque chose d'impossible, dans le cas échéant, vous allez vous sentir frustré, coupable, malhonnête. Voilà, donc merci à toutes et à tous.
Et merci à vous, Mouamadou, à Bamako, Mali, Thibault Liorat. Je vous ai vu hocher la tête.
Absolument. Ce témoignage, il souligne quelque chose de très important. C'est la force qu'il y a derrière cette gratuité. Je pense notamment, alors c'est pour remonter un petit peu dans l'histoire, aux potlatch. Alors, est-ce que vous connaissez les potlatch? Il s'agit de duels entre des tribus indigènes d'Amérique du Nord qui ont été rappelées par Alain Caillé dans un de ses derniers essais sur le don. En fait, l'idée, c'est quand deux tribus rivalisent, elles vont s'affronter à coups de cadeaux. La première va défier l'autre en
c'est
lui
pas
faisant
banal, hein,
des offrandes. C'est pas banal, effectivement. Et l'autre charge à l'autre de riposter, entre guillemets, en faisant une offrande encore supérieure. Donc effectivement, c'est quelque chose qui remonte à la nuit des temps. Et comme le soulignait très justement votre auditeur, Emmanuel, si je vous fais un cadeau à votre prochain anniversaire, vous allez vous sentir redevable de m'en faire un lorsque le mien arrivera.
Donc c'est la compétition du cadeau qui crée la redevabilité d'une certaine manière.
Voilà, ça oblige quelque part le don.
Françoise Passerard, vous avez étudié le rôle des cadeaux par des entreprises ou par des événements comme le Tour de France qui distribue des petits gadgets.
Oui, ce qu'on appelle aujourd'hui des goodies, mais qui au final ressemblent surtout à des échantillons et qui sont offerts gratuitement. Donc pour vous resituer un petit peu.
Ça peut être des porte-clés, aujourd'hui c'est plutôt des clés USB.
Il y a un petit peu de tout, mais on peut peut-être resituer le contexte d'abord alors du Tour de France en cyclisme qui est un événement sportif hyper médiatisé, mais ce que les gens savent peut-être moins dans le reste du monde, c'est que avant que le peloton de cyclistes passe et traverse nos villes et nos étapes, il y a ce qu'on appelle la caravane publicitaire du Tour de France, avec des véhicules, des camionnettes, des voitures, des espèces de minibus, de vannes, qui sont déguisés aux couleurs et aux logos de certaines marques. Alors certaines marques sont des sponsors fidèles depuis des décennies et puis d'autres arrivent désormais. C'est très festif, c'est très bonne ambiance, c'est fraternel aussi d'une certaine façon. Beaucoup de musique, d'animation, et les véhicules passent, ralentissent un petit peu quand ils arrivent au niveau des spectateurs du Tour de France qui attendent sur le bord des routes et lancent des cadeaux, des goodies gratuitement. Et donc en fait, pour faire attention, pour être délicat, ils vont les jeter plutôt par terre et ensuite les spectateurs vont les ramasser et ils vont faire un petit peu l'état des lieux à la fin du passage de cette caravane. Et ils vont voir un petit peu ce qu'ils ont eu. Alors, des échantillons de bonbons, de petits saucissons, de madeleines, un oreiller gonflable pour une marque d'hôtel, des petites bouteilles d'eau pas trop lourdes. Bon. Et là où c'est fraternel, solidaire d'une certaine façon, c'est que ces spectateurs vont s'échanger les cadeaux entre eux. Ils vont s'assurer, s'il y a des petits-enfants à côté, que les petits-enfants ne repartent pas sans un sachet de bonbons pour essayer de faire un petit peu plaisir à tout le monde. Et il y a quelque chose de très, très... chouette la dent, très sympa.
Les gens adorent, c'est un petit côté quand même pêche au trésor, un peu ludique.
C'est clair, c'est
qui nous replonge un peu dans dans le monde de l'enfance. Il y a un nouveau concept de café où on paye maintenant, alors moi je connais pas, où on paye au temps passé et on consomme, on boit et on mange autant qu'on veut.
Oui. Je me permets de donner le nom du café en question, puisque maintenant c'est une chaîne, c'est l'Anticafé. Dans un Anticafé, il y en a plusieurs à Paris et en France. Dans un anti-café, on va consommer autant qu'on passe. Et pendant cette durée-là, ça peut être une demi-heure, une heure, une demi-journée, une journée pleine, on va avoir accès à une partie des produits qui seront à consommer à volonté. Et ce côté à volonté, transforme quelque chose psychologiquement dans l'esprit des consommateurs, c'est qu'on a l'impression que c'est gratuit. Parce que cette sensation, ce sentiment d'abondance, d'accès à l'abondance, fait qu'on oublie un petit peu ce qu'on paye. Et payer du temps, c'est complètement dématérialisé d'une certaine façon. Et les gens vont avoir tendance à se dire oh, « chouette, je vais pouvoir vraiment m'en donner à cœur joie, me prendre trois petits déj ou deux vrais repas, plein de petits goûters, plein de petits encas », alors qu'en fait, en réalité, ils mangent pas plus qu'à leur faim normale.
Parce qu'à un moment donné, on est rassasié. Donc, tout bénéfice pour l'entreprise.
Oui, probablement. Mais,
Une invention qui vient d'où, ça ? L'anti-café.
À ma connaissance, c'est un concept porté par des entrepreneurs français qui essayaient, comme disait Thibault Liorade tout à l'heure, de développer un nouveau business model, quelque chose qui réponde un petit peu plus aux tendances de consommation actuelles, parce qu'il y a aussi, c'est pas juste un café de restauration, c'est aussi un espace de coworking où on va avoir accès à du wifi à volonté, une imprimante disponible,
Dans les pays dits riches, on voit bien que les gens, même s'ils sont riches, même s'ils sont rassasiés, ils adorent avoir des cadeaux.
Oui.
Ce que vous démontrez, Françoise Bassrard, en tout cas vous avez étudié, c'est que dans les populations les plus pauvres, dans les pays pauvres, les services gratuits ne fonctionnent pas forcément, en fait. Oui. N'attire pas forcément.
Alors, c'est pas forcément moi qui l'ai démontré, en tout cas pas encore dans mes travaux, mais là
mais
je me réfère plutôt...
en relation, en tout cas, les deux phénomènes.
Je me réfère plutôt aux travaux d'une économiste française qui est une femme assez extraordinaire qui s'appelle Esther Duflo, qui est chercheure au MIT, qui a fait partie de l'équipe d'Obama.
Massachusetts Institute of Technology, oui, une française, hein, très remarquée des chercheurs américains.
Oui, un futur prix Nobel, quoi. Et en fait, Esther Duflo a montré que, par exemple, dans un pays comme le Kenya, les enfants vers l'âge de 14 ans n'étaient pas forcément en mesure de bien lire, bien écrire un paragraphe simple. Elle a essayé de chercher pourquoi, en faisant des expérimentations pour essayer de tester l'efficacité ou non des programmes de développement. Et en fait, on se rend compte de plusieurs choses. C'est que les livres scolaires sont distribués gratuitement dans les écoles, mais ils sont en anglais. Or, l'anglais est la troisième langue parlée par les petits-enfants au Kenya. Donc, on change un petit peu les choses, on leur donne un livre dans leur langue maternelle ou la deuxième, et puis on essaie de voir un petit peu. Et là, on se rend compte que ça ne va pas forcément mieux parce que les enfants souffrent d'absentéisme scolaire, mais les enseignants aussi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi est-ce que les enfants sont absents? Parce qu'ils sont malades. Qu'est-ce qu'ils ont? Par exemple, des parasites intestinaux. Donc, on va les faire les vermifuger. Donc, ils vont revenir à l'école. Les professeurs, on va leur donner des incentives, c'est-à-dire des motivations peut-être un petit peu financières.
Donc, exemple
pour
de,
les encourager
de don
à rester
à côté de la plaque par rapport aux besoins immédiats d'une population.
Complètement. Et là, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. En marketing, on a de très bonnes choses. La meilleure chose, à mon sens, c'est connaître les vrais besoins des gens. Et tout faire pour y répondre.
Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas donner des manuels scolaires aux enfants dans les écoles,
non,
bien évidemment.
Mais avant de leur donner les manuels scolaires, il faut aller les voir sur place et leur demander de quel manuel ils ont besoin, en quelle langue, quel volume, quel poids.
Et qui est un enseignant dans la salle de classe.
Exactement.
Accessoirement, ça
Exactement.
Peut servir.
Allez, toujours partir des gens.
On parle de la gratuité aujourd'hui. Qu'est-ce qui se cache derrière la gratuité? Est-ce que la gratuité a un avenir dans le monde marchandisé? Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On donne la parole à un auditeur. Henri est en ligne avec nous à Yaoundé au Cameroun. Bonjour Henri, soyez le bienvenu.
Bonjour Emmanuel.
On vous écoute Henri.
Bon voilà, la gratuité dont on parle, elle est effective chez nous parce que nous sommes une association de jeunes entrepreneurs au Cameroun. Mmh. Et puis nous, on donne des formations aux élèves, aux jeunes de qui n'ont rien à faire ou bien qui ont des idées, qui ont des projets à créer leur entreprise. Mm-hmm. Donc, soit à partir de l'idée, soit ils ont déjà une entreprise qui existe. Comme ça, on essaie de leur montrer comment faire un business model. Et puis, on a une compétition qu'on le fait en 3 jours.
Oui.
Donc, c'est-à-dire... On commence le vendredi.
Donc vous emmenez les jeunes dans une sorte de bootcamp, hein, c'est ça, pendant 3 jours.
Oui.
Et où vous les faites travailler sur le concept de l'entrepreneuriat en compétition les uns
Exactement.
Avec les autres.
Exactement. Donc on les met tous ensemble. Donc parfois ils sont près d'une cinquantaine. Et puis il nous faut retenir peut-être 10 idées à la fin.
D'accord.
Donc quand quelqu'un vient avec son idée, on n'est pas obligé de le recevoir. On le met dans un groupe qui travaille avec les autres. Et puis à la fin, ils sortent une idée qu'ils peuvent travailler tous ensemble dessus.
Et vous les sélectionnez, ces jeunes, parce que vous leur proposez donc de la formation gratuite. Hein, vous-même, vous vous investissez en tant que chef d'entreprise auprès de ces jeunes. Ces jeunes, ils sont sélectionnés grâce à une page Facebook.
Oui,
c'est ça que vous avez tous créé.
Notre page Facebook et puis un réseau qu'on a depuis ensemble. Donc,
okay. Bon, on va le donner, le nom du réseau. Hein, ça ne coûte rien. Allez-y.
Oui, UBC Cameroun.
D'accord, UBC Cameroun. Mais vous-même, qu'est-ce que ça vous rapporte en tant que chef d'entreprise?
Bon, ça ne nous rapporte pas. Au contraire, ça nous fait dépenser. Peut-être ça nous rapporte en termes de visibilité. Donc, on fait voir aux jeunes qu'il y a certaines personnes qui ont déjà fait ce qu'ils ont eu à faire.
Parce que vous partez trois jours avec des jeunes, une fois tous les trois mois, pendant trois jours, hein, quand même, avec des jeunes.
Oui, trois jours.
Pendant ce temps, vous ne travaillez pas, vous.
Non, nous, on ne travaille pas. Nous, on est content de donner ce qu'on a reçu, parce que nous aussi, on est passé par là.
Donc, c'est une forme de redistribution?
Bon, exactement. Donc, je pense que c'est cela. On redonne ce que nous, on a reçu. Parce que nous aussi, on a eu des mentors et puis des coachs qui nous ont donné les formations gratuitement.
C'est ça, c'est de la responsabilité sociale des entreprises. Alors, je sais, Henri, que vous faites des meubles en rotin. C'est bien ça, au Cameroun?
Oui. Je fais des meubles en rotin et puis beaucoup d'autres choses.
Oui, je sais, vous êtes déjà passé dans l'émission. Je vous ai reconnu. Vous êtes passé avec le coach Didier Akwété où, justement, vous exposiez votre entreprise et vous parliez de votre plafond de verre, votre crise de croissance.
Exactement. J'ai pas la même occasion. Je veux vous dire que j'ai eu beaucoup, beaucoup de retours par rapport à cette émission et je vous remercie d'avance.
D'accord. Bah merci beaucoup, en tout cas à vous, Henri, de nous avoir appelés. Et puis, longue vie et bravo pour ce que vous faites pour les jeunes. C'est vrai que la responsabilité sociale des entrepreneurs, de PME, sur des continents où il y a une attente sociale qui est très forte, c'est un bon exemple de gratuité ou pas, selon vous, Thibault Liorade?
Oui, c'est un bon exemple, mais effectivement, c'est un exemple qui illustre que la contrepartie, elle n'est pas forcément tangible, elle n'est pas forcément mesurable. Votre auditeur l'a souligné, il a des retombées en termes de visibilité, en termes peut-être de prestige. Il y a aussi, ça rejoint l'anecdote que je racontais tout à l'heure sur les tribus indigènes d'Amérique du Nord, c'est aussi une manière d'affirmer une certaine forme de pouvoir. Quand Bill Gates donne la moitié de sa fortune à l'Afrique, c'est aussi pour montrer que c'est Bill Gates et qu'il est extrêmement puissant. Qu'il le veuille ou non d'ailleurs. Mais l'image qui en ressort, c'est ça. C'est une image de puissance.
Les patrons de PME, en tout cas sur le continent africain, se sentent investis clairement d'une mission de redevabilité, hein, une mission sociale, et ça c'est très très prégnant en Afrique. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71, on prend une auditrice qui nous appelle de Dakar au Sénégal. Bonjour Diarra.
Bonjour.
Diarra, vous avez 30 ans, vous voulez vous exprimer sur la gratuité de l'enseignement supérieur au Sénégal.
Tout à fait.
L'université, précisément.
Je pense que la gratuité dans l'enseignement supérieur au Sénégal pose problème. La gratuité en tant que telle n'est pas mauvaise. Je dis très bien que ce n'est pas mauvais, mais en fait, ça ne motive pas les étudiants. Vous voyez un peu ce que je veux dire. En fait, un étudiant qui a tout à sa disposition, c'est gratuit. Je pense qu'on ne peut pas avoir un enseignement de qualité quand on ne dépense pas assez, en fait. Et ça permettrait d'entretenir une université, de mieux payer les professeurs aussi. Mais ce qu'on dépense ici pour avoir une licence, un master à l'université, c'est pas bien.
Vous lancez
moins de 10 000 francs, je pense.
Ouais. Vous lancez en tout cas quand on n'est pas boursier. Vous lancez un vaste débat, Diarra, hein, sur l'enseignement supérieur qui est pas propre au Sénégal. Merci en tout cas de nous avoir appelé. Quand c'est gratuit, ça n'a pas de valeur. On a le sentiment que ça n'a pas de valeur. Est-ce que aujourd'hui, il y a à l'inverse des initiatives qui montrent le contraire? On sera en ligne dans quelques minutes avec le maire de Dunkerque, hein, qui a organisé la gratuité des transports publics, mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui pourrait être en train de changer, ça, Thibault Liorade.
Qui pourrait être en train de changer.
C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait, la gratuité pourrait changer d'image ou pas?
La gratuité, à mon avis, elle est de moins en moins visible et c'est surtout dans l'économie numérique que ça se traduit. Et je pense notamment à la valeur de la donnée qui est livrée. Quand vous postez quelque chose sur Facebook, mais je rappelle que WhatsApp et Instagram, je les mets dans le même lot parce que ça fait partie de Facebook aussi, on ne sait pas forcément mesurer combien cette valeur va être captée et combien elle va être revalorisée. Mais en revanche, on sait que c'est extrêmement précieux et je pense à une étude qui a été menée par l'université de Cambridge notamment qui expliquait que quand un ordinateur analyse 10 likes d'un même profil, l'ordinateur vous connaît déjà aussi bien qu'un collègue de bureau. Quand vous passez à 70, l'ordinateur vous connaît aussi bien qu'un ami, et quand vous passez à 300, c'est au niveau du conjoint. Ça vous donne quand même une idée de la valeur de cette donnée.
Ouais. On s'interroge vraiment sur la gratuité aujourd'hui. Clarence Blounz, vous êtes intéressé à tous les actes où quand c'est le client qui travaille. Ça fait un moment déjà que nous tous, hein, en tant que consommateurs, on s'est bien rendu compte que parfois on travaille à la place des salariés.
Tout à fait. Bah, ce qui est intéressant de voir dans certains cas, et justement notamment dans le cas de Siki le patron, donc c'est cette coopérative qui propose de mieux rémunérer les producteurs agricoles, c'est que...
Qui vend des produits laitiers.
Qui a commencé par des produits laitiers, ça a eu un énorme succès. Et maintenant, ils se sont beaucoup diversifiés, tout à fait. C'est que là, au contraire, on est un peu dans le cas inverse de l'université gratuite dont on parlait tout à l'heure. C'est que non seulement le consommateur paye plus cher, parce que la brique de lait, par exemple, était 30% plus chère que la brique de lait similaire d'une autre marque, mais qu'en plus, ça le motive à travailler gratuitement, que ce soit en faisant de la pub gratuite sur les réseaux sociaux, que ce soit en allant vérifier en magasin que les produits étaient bien achalandés, en allant démarcher les directeurs de magasin si le produit n'était pas présent, voire en proposant eux-mêmes de faire des animations en magasin, donc qui sont des activités qui sont normalement faites par des professionnels.
Alors il faut quand même bien le dire, c'est qui le patron? Donc c'est une coopérative, une entreprise coopérative qui a émergé quand même à la faveur avec de la crise des éleveurs en France, où les éleveurs disent nous on vend notre lait à perte, on travaille à la perte, quand on travaille on perd de l'argent. La crise du scandale Lactalis, le lait pour bébé aussi contaminé aux salmonelles, tout ça fait que quand une entreprise comme C'est qui le patron propose aux clients, aux consommateurs, est-ce que vous êtes prêt à payer notre beurre 30% moins cher si ça a du sens? Les gens répondent oui, ce qui est quand même assez incroyable. Et ensuite, ils leur disent, est-ce que vous êtes prêt à nous filer un coup de main, comme vous le dites, pour contrôler que la marchandise, que les magasins sont bien achalandés, etc. Les gens disent oui et ils donnent de leur temps. Ça peut sembler quand même incroyable, non?
Bah, en fait, je pense que c'est un cas où on sort d'une relation marchande, d'une transaction marchande traditionnelle où je donne de l'argent en échange d'un produit ou d'un service et après j'oublie le vendeur, on ne se revoit plus très, très épisodiquement. Et au contraire, on va rentrer dans les types de relations dont parlait Thibaut tout à l'heure. Ça devient une relation de don contre don, en fait. Et ça devient une relation qui se rapproche plus du bénévolat. On est content de donner du temps, de donner de l'énergie parce que on est dans une relation continue, on a le sentiment d'appartenir à une communauté et on va se donner du sens comme ça.
Oui, il y a des supermarchés coopératifs comme la Louve où les clients, là aussi, donnent du temps. Ça se fait aussi dans des crèches coopératives où des parents se relaient aussi pour garder les enfants de tout le monde. Est-ce que ça peut amener à des dérives je ne sais pas, ça fonctionne sur la base de quoi? Une sorte de contrat social? Comment vous appelleriez ça, finalement?
Bah, le problème, c'est que ça fonctionne sur très peu de bases. Enfin, on va dire que c'est des relations qui sont très peu normalisées. Et que du coup, dans le cas d'une relation entre un consommateur et une entreprise, donc là, dans le cas de C'est qui le patron, c'est une coopérative, bon, c'est une forme d'entreprise quand même, il y a toujours des risques, peut toujours y avoir des risques. Où est la frontière entre la co-création de valeur et la captation de valeur? Parce que finalement, le consommateur, contrairement à un salarié traditionnel qui a son contrat de travail, qui a ses syndicats, etc., le consommateur, lui n'a pas grand-chose.
Ouais, ou même par rapport à un bénévole. Là, c'est pas encadré, il n'a pas d'existence, ce bénévole-là, ce client qui travaille pour rien, pour la boîte.
Tout à fait. En fait, ces consommateurs-là ont une activité qui est très proche du bénévolat, mais il se trouve que le bénévolat traditionnel est un peu plus encadré. Enfin, déjà, c'est que dans des associations à but non lucratif. Donc, de base, on va retirer la notion de profit.
Est-ce qu'on a déjà vu des cas d'entreprises qui étaient malhonnêtes? honnête dans un discours en essayant de capter la bonne volonté du client. Est-ce qu'on a déjà vu des dérives ou pas, finalement? Alors, quand on parle du fast-food, où on vous demande de débarrasser vous-même votre plateau, je ne sais pas si on peut appeler ça une dérive. En tout cas, c'est clair, le consommateur le sait. Il vient, il paye son plateau repas, il sait qu'il doit le débarrasser à la fin.
C'est difficile de parler de dérive, parce que dans la société actuelle, on considère que le consommateur est roi. Donc si le consommateur accepte la transaction, c'est que cette transaction était bonne pour lui. Mais le consommateur reste aussi un acteur irrationnel. Enfin, les spécialistes en marketing vous diront combien de temps on met à choisir un produit en magasin, mais c'est de l'ordre de quelques secondes. Donc est-ce qu'on peut vraiment prendre toutes les décisions
Le consommateur est irrationnel. Combien pèse la gratuité dans tout ça? Allez-vous nous téléphoner au 33 1 84 22 71 71? Dans quelques secondes, on accueille le maire de Dunkerque, Patrick Vergritte.
7 milliards de voisins et la planète se barre.
La gratuité des transports publics est-elle possible? À quelles conditions? On est en ligne avec le maire de Dunkerque. Bonjour Patrick Vergritte.
Bonjour.
Vous êtes aussi le président de la communauté urbaine de Dunkerque. C'est la plus grosse agglomération européenne avec un transport public désormais totalement gratuit. Ça a été mis en place il y a à peu près un an. Autant dire que c'est chez vous, c'est devenu le défilé permanent des maires. Tout le monde veut venir voir comment ça fonctionne.
Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de délégations, notamment étrangères, qui viennent à Dunkerque. Je pense en particulier à des délégations allemandes, belges, même américaines ou néo-zélandaises en octobre, pour voir effectivement cette innovation.
Le Sénat doit rendre aujourd'hui les conclusions d'une mission d'information sur la gratuité des transports en France, avec comme enjeu le droit à la mobilité pour tous. Alors pour vous, à Dunkerque, quel est le bilan de ces transports gratuits ?
Au bout d'un an, le bilan est assez extraordinaire. On a d'abord eu une progression de la fréquentation considérable. On a quasiment doublé la fréquentation dans les transports collectifs, mais aussi énormément d'effets induits, parce que finalement, ceux qui ont pris le bus, pour la moitié d'entre eux, hein, les nouveaux usagers du bus, ils ont abandonné leur voiture. Donc ça a été un gain de pouvoir d'achat pour la population, ça a été un gain environnemental pour la ville, un gain foncier aussi pour le centre-ville, puisqu'on a à peu près maintenant un tiers ou un quart de nos parkings qui sont vides, ce qui nous permettra de construire demain des logements, des parcs, davantage de commerces et d'aménités. Donc c'est un bilan extrêmement positif en termes de fréquentation, avec les différentes conséquences positives. Lutte contre l'exclusion également. On a découvert en fait que dans les nouveaux usagers, un tiers d'entre eux étaient des gens qui ne faisaient pas le déplacement auparavant. Donc alors même qu'il y avait une tarification sociale très généreuse ici à Dunkerque, on voit à quel point finalement on a réussi à mettre en place un outil de lutte contre l'exclusion et l'isolement des personnes âgées.
On vous avait quand même prédit une liste de problèmes assez longue, hein. Vous avez prédit une augmentation des incivilités, des dégradations dans les bus, etc. Qu'en est-il exactement? Ce qui est sûr, c'est que bon, il n'y a plus de fraudeurs, hein, puisque c'est gratuit pour tout le monde.
Oui, alors la grande difficulté du débat sur la gratuité des transports publics, c'est qu'il n'y avait jamais eu aucune étude académique avant Dunkerque, en fait. Et donc on avait beaucoup de pseudo-experts qui ont mis beaucoup de poncifs et de préjugés dans le débat, mais en fait en réalité qui sont faux et qu'on connaissait déjà comme mensongers avant même de faire Dunkerque. Les incivilités, par exemple, toutes les agglomérations dans le monde qui ont mis en place la gratuité des transports publics ont vu une diminution des incivilités par nombre de voyageurs. Et même à Dunkerque, on a même une diminution en valeur absolue des incivilités.
Est-ce qu'on sait, puisqu'évidemment on
a plus de contrôle social dans les bus, plus de personnes dans les bus, les contrôleurs seraient affectés là où c'est utile, on a effectivement aussi plus de caisses, plus d'argent, il n'y a plus de fraude, donc évidemment, en fait, quand on réfléchit 30 secondes, on voit bien ce qu'il faut. Et d'ailleurs, juste une pensée philosophique, tout ce qui est important pour vous dans votre vie est gratuit, quand on y réfléchit. Donc ce qui est gratuit n'a pas de valeur, est juste une phrase horrible qui veut dire que ce qui n'a pas de valeur marchande n'a pas de valeur humaine. Donc ça n'a pas de sens en fait, et la réalité c'est une diminution des incivilités.
On va retenir cette phrase-là, tout ce qui est important pour vous dans votre vie est gratuite, ça on partira pas sans cette phrase-là. Patrick Vergritte, là. Alors quand même, la vente des tickets et des cartes d'abonnement de bus, ça vous rapportait je crois 4,5 millions d'euros, c'est-à-dire en fait c'était une petite partie du coût réel du transport qui était déjà largement subventionné. Mais comment vous avez du coup financé ce trou de 4,5 millions?
Alors, c'est vrai dans toutes les villes de France. Hein, le contribuable paye évidemment la majorité du financement du transport collectif. Nous l'avons financé en abandonnant un projet de mon prédécesseur qui était la construction d'un grand équipement, en fait une salle de spectacle culturel et sportif de 10 000 places qui allait coûter en partenariat public-privé, en PPP, 8, 9, 10 millions d'euros à la collectivité chaque année. Nous avons annulé le projet et nous avons réaffecté en fait les financements correspondant à ce projet de gratuité des transports publics et d'amélioration de la qualité aussi, parce qu'on a fait la gratuité du transport, mais on a aussi amélioré la qualité du réseau.
Pourquoi la gratuité pour tous? Parce que vous dites on a doublé la fréquentation des bus, mais dans cette population-là, il y a des gens qui pourraient tout à fait payer. Hein. Et ceux qui payaient avant, ils sont toujours dans les mêmes bus. Alors pourquoi la gratuité pour tous? Pourquoi pas des tarifications en fonction des revenus des gens? Patrick Vergritte, est-ce que vous êtes toujours en ligne avec nous? C'était ma dernière question. Il nous avait accordé 5 minutes. J'aurais bien aimé pouvoir lui poser la dernière question s'il est disponible. Qu'est-ce que ça vous inspire, Wish?
Je crois qu'en fait, jusqu'à présent, les différences de tarifs en fonction des revenus des usagers des transports en commun, quelles que soient les villes, ne fonctionnaient pas tant que ça. Et c'est ce que disait Monsieur le maire de Dunkerque tout à l'heure, c'est que au final maintenant avec la gratuité des transports, des personnes qui n'étaient pas utilisatrices des transports en commun alors qu'elles avaient quand même accès à des tarifs très très réduits, s'isolaient un petit peu dans une zone un petit peu recluse du cœur de ville, etc. Et là, la gratuité a ce pouvoir un petit peu, comme vous disiez tout à l'heure Thibault Liorade, de redonner accès à quelque chose qui était accessible avant, mais qui nous paraissait difficile à atteindre pour autant. C'est là le paradoxe des consommateurs, des citoyens.
Patrick Vergritte, on vous a récupéré au téléphone. Vous nous accordez encore une minute. Je voudrais vous poser deux questions très rapides. D'abord, pourquoi la gratuité pour tous, Patrick Vergritte, puisque vous auriez pu faire des tarifications en fonction des revenus?
Alors, c'est ce que je vous évoquais tout à l'heure quand je parlais de tarification sociale ou solidaire. Beaucoup d'agglomérations ont mis en place des tarifications sociales. Mais on s'aperçoit en fait à Dunkerque que quand on est passé à la gratuité totale, justement, un tiers des nouveaux déplacements étaient des déplacements qui ne s'effectuaient pas auparavant. Parce que la personne n'avait même pas la capacité de payer le reliquat de l'abonnement ou tout simplement n'allait même pas chercher la carte qui lui permet d'accéder. Mmh. Il y a eu beaucoup d'études en France qui montrent qu'en fait les politiques ciblées sur des catégories ne profitent pas en général aux plus exclus de cette catégorie. Il y a eu des études sur le RMI, le RSA, qui montrent bien ça. Et les tarifications sociales et solidaires qui sont mises en place dans un certain nombre d'agglomérations n'ont jamais été évaluées en France. Il y a beaucoup de gens qui disent c'est ça le miracle, on va faire payer ceux qui peuvent mais pas les autres. Mais en fait, en réalité à Dunkerque, alors qu'on avait une tarification sociale très généreuse, on s'est aperçu qu'en fait on avait une grande partie des exclus qui n'étaient pas concernés. Et même des personnes âgées qui pourtant avaient le bénéfice de la gratuité avant mais n'allaient pas chercher leurs droits, leurs cartes, maintenant se sont remises en mobilité. Donc on voit bien qu'une politique universelle qui s'adresse à tous est beaucoup plus efficace en réalité qu'une politique ciblée qui nécessite une communication, que les gens se déplacent, et tout ça, ça ne se fait pas spontanément. Donc en fait, la tarification sociale et solidaire vantée par beaucoup, elle ne fonctionne pas si bien que ça.
Est-ce que ce transport gratuit à Dunkerque, ça pourrait être appliqué à l'échelle d'une grande ville comme Paris où les transports sont saturés et où il y a beaucoup de pouvoir d'achat?
Alors, la gratuité du transport public, elle est particulièrement utile, notamment ses avantages, dans des villes comme Dunkerque, effectivement, où il y a une très forte dominante de voitures et où il faut changer la culture du transport public, où le réseau de transport n'est pas saturé, donc comme à Paris, ou alors quand on a les moyens de le développer. Nous, à Dunkerque, il était pas vraiment saturé, mais surtout, on lui a donné une perspective de développement. En fait, on a anticipé un doublement de la fréquentation, et donc c'est pour ça qu'on a investi dans le réseau. Donc c'est vrai, il faut des villes, non pas particulière, mais il faut des villes où il faut développer une culture du transport collectif, il faut réussir à remettre, comme je dis toujours, la case transport collectif dans le cerveau de tous ceux qui utilisent la voiture, parce qu'à Dunkerque, finalement, quand on avait une voiture, spontanément, on se déplaçait en voiture, on cherchait même pas à savoir si le bus était plus intéressant. Donc dans ces villes-là, avec une très forte culture de la voiture, c'est clair que c'est plus efficace. Dans des villes aussi populaires, où des enjeux de pouvoir d'achat existent, c'est plus efficace. Mais évidemment, il faut pas que les réseaux de transport soient déjà saturés, puisque la gratuité amène inexorablement au moins 30, 40, 50% de fréquentation en plus. À Dunkerque, c'est le doublement, mais inévitablement, ça augmente la fréquentation. Donc si le réseau est saturé au départ, il sera encore plus saturé après, et il vaut mieux des systèmes différents, ou alors aller très progressivement vers un système de gratuité, mais alors le faire évidemment sur des dizaines d'années.
Expérience en tout cas intéressante et à suivre. Merci à vous d'avoir été en ligne avec nous, Patrick Vergrit. Vous êtes donc le président de la communauté urbaine de Dunkerque qui a décrété les transports publics gratuits depuis un an. Merci à vous. On parle de la gratuité et vous pouvez continuer de nous téléphoner aujourd'hui 33 1 84 22 71 71. Écoutez 7 milliards de voisins, on est en direct, c'est Mickaël Kiwanuka, You Ain't the Problem. C'est pas vous le problème, mais vous pouvez bien sûr nous appeler les voisins au 33 1 84 22 71 71. On parle de la gratuité aujourd'hui, quelle place pour le monde marchandisé. Message d'un voisin posté sur WhatsApp d'Abidjan.
Bonjour les voisins et les voisines, moi c'est Koulibaly de la Côte d'Ivoire. Selon moi, tout ce qui est gratuit, on paye à tous les coûts, on paye, et puis plus cher même. Rien n'est gratuit. Derrière ça, il y a un gros système marketing qui est derrière. Il y a vos données qui sont du côté des réseaux sociaux, Internet et tout ça. Les sites racontent tout ça. Il y a la publicité qui est derrière. Il y a tout un gros business derrière. Et puis du côté des transports, en tout cas des transports des bus, du côté de la Côte d'Ivoire, ouais, les bus doivent être presque gratuitement puisque le pays est très riche. Et nous avons le sous-sol, en tout cas, il y a pas mal de choses qui sont là qu'on doit exploiter. Donc, je peux dire que non, le transport doit être presque cadeau. Voilà. Si c'est gratuit, ça va nous arranger au niveau de la Côte d'Ivoire. Merci les voisins et très bonne journée.
Eh ben, merci à vous hein, pour la gratuité du transport en Côte d'Ivoire. Ben, il faut aller voir le maire de Dunkerque, hein, Patrick Vergrit, qu'on a entendu. Alors, les fameuses données, le numérique, on en a parlé au début de cette émission qui est en partenariat avec le site d'information The Conversation, avec vous Thibault Lurad, hein, le chef de la rubrique économie et entreprise. Nous sommes en ligne avec Julien Pillot maintenant, qui est à Shanghai. Bonjour Julien Pillot.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes dans
et
un
bonjour à toutes les personnes sur le plateau et tous vos auditeurs et auditrices.
Et merci à vous d'être en direct avec nous. Vous êtes dans un pays, la Chine, où le numérique est omniprésent. Et justement, vous avez étudié ce que signifie la gratuité sur Internet. Thibault Lurad nous le disait tout à l'heure. Nous, en tant que citoyens utilisateurs du web et des réseaux sociaux, on ne sait pas du tout ce qu'on rapporte chacun d'entre nous à Facebook quand on est sur notre page Facebook. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet-là? Je sais qu'il y a une phrase que vous détestez, que j'ai citée tout à l'heure. Si c'est gratuit, c'est que le produit, c'est vous.
Absolument, je la déteste parce que la gratuité dans le numérique existe de la même manière que la gratuité totalement désintéressée existe dans la sphère réelle. Si vous utilisez Wikipédia, si vous utilisez des logiciels libres, ben ces gens-là n'ont rien d'autre à vous vendre que le service qu'ils vous apportent. Alors, peut-être de temps en temps, ils vous demandent vous mettre contribution, mais ce sera sous la forme de dons et uniquement ainsi. Donc en fait, la vraie phrase qui devrait être prononcée, c'est pas si c'est gratuit, c'est vous le produit, mais plutôt si c'est vous le produit, alors ce n'est pas gratuit. Et ça change tout, parce que en tant que consommateur, derrière, il faut se poser la question de savoir finalement quels sont les services que j'utilise qui font finalement commerce de ce que j'apporte à travers ma navigation, à travers les likes que je mets sur Facebook ou à travers les photos que je poste sur Instagram. Ça change complètement la donne. Il y a des services sur Internet, et ils sont nombreux, qui monétisent finalement votre personnalité et votre profil.
Donc c'est à nous de faire le tri.
Éventuellement, les vendre à des publicitaires.
C'est-à-dire que c'est à nous de faire le tri, c'est-à-dire que c'est à nous de plus aller sur Google pour faire une recherche, sous-entendu.
Alors, c'est à nous de plus aller sur Google pour faire une recherche. C'est pas si simple que ça, parce que, mine de rien, ces services sont malgré tout ultra performants. Ils sont ultra performants parce qu'ils disposent de davantage de données que les autres, qui viennent nourrir des algorithmes qui leur permettent de finalement donner les meilleurs résultats lorsqu'on est un utilisateur lambda. Donc, encore faut-il qu'il y ait des alternatives à Google, mais également à d'autres opérateurs dominants comme Amazon dans le commerce en ligne ou à Facebook dans les réseaux sociaux. Et c'est très délicat qu'il y en ait parce que rentrer sur un marché dans lequel il y a déjà des acteurs qui sont ultra dominants tels que ceux que je viens de citer, c'est très compliqué et il ne suffit pas d'avoir une compétence technologique et beaucoup de ressources financières pour pouvoir y parvenir. Par exemple, Microsoft, qui est une entreprise à qui on ne reniera pas des grandes qualités technologiques et beaucoup de capacités financières, reste, on va dire, à un niveau confidentiel au niveau des moteurs de recherche et a dû se résoudre à enterrer son système d'exploitation mobile Windows Phone 10 parce que tout simplement il avait trop de retard vis-à-vis des plateformes dominantes. Donc ce sont des marchés dans lesquels finalement les acteurs dominants très rapidement deviennent très difficiles à concurrencer et il n'est pas garanti qu'il puisse y avoir des alternatives. Cependant, de temps en temps, elles existent.
Oui, sous-entendu quand même pour nous, le consommateur, c'est quand même compliqué de s'y retrouver. On arrive bientôt au terme de cette émission. Merci Julien Pillot d'avoir été en ligne avec nous. Peut-être un mot de conclusion par rapport à toutes les expériences là et tous vos sujets d'études respectifs. Clarence Blounes, vous qui avez travaillé sur le modèle coopératif où c'est le client qui travaille mais par engagement. Françoise Passerard, vous avez davantage travaillé sur l'aspect plus enseignement supérieur notamment, d'autres aspects. Thibault Liorade, vous êtes le chef de la rubrique économie entreprise du site d'information The Conversation. Peut-être un mot de conclusion à vous tous sur ce concept de gratuité, Clarence Blounes.
Je pense que ce qu'on peut retenir, c'est que rien n'est vraiment gratuit en fait. Et après, ça dépend, est-ce qu'on se trouve dans une relation marchande ou une entreprise, une organisation va nous faire un cadeau ou va nous fournir des services gratuitement en espérant quelque chose, comme par exemple des données dans le cas d'Internet en échange, ou est-ce qu'on est dans une relation, les relations vraiment importantes, celles qui ont vraiment de la valeur, comme disait le maire de Dunkerque tout à l'heure, qui sont des relations de don contre don, donc qui sont des relations plus familiales, amicales, mais qui peuvent se développer aussi sous la forme d'associations, de bénévolat, etc.
Françoise Passerard, oui. On a parlé avec vous de l'enseignement supérieur, mais on a aussi parlé des fameux, de la culture des cadeaux et du marketing.
Oui. En fait, si on résume un petit peu tout ça, en reprenant aussi les témoignages de vos auditeurs, en particulier Henri et Diarra, je pense qu'on peut se rappuyer sur ce qu'on appelle les trois piliers du don, puisque le don sous-entend la gratuité, qui tiennent en trois verbes, donner, recevoir et rendre. Et à ce moment-là, on va parler de transmission. Si on l'applique au monde de l'enseignement supérieur privé en particulier, le piège, c'est de garder la relation pédagogique au cœur de la transmission et de ne pas tomber dans le piège de la relation commerciale qui viendrait grignoter un petit peu cette pédagogie qui est au cœur de la relation.
Et elle exemple. Grignote de fait quand même dans l'enseignement supérieur privé. Thibault Liorade.
C'est un risque.
Alors, vous avez rappelé cette phrase un peu controversée, si c'est gratuit, c'est vous le produit. Alors effectivement, elle est controversée, mais moi, il y a une autre phrase que je préfère pour parler de gratuité et c'est une phrase qu'on utilise beaucoup en économie. Elle a été popularisée par Milton Friedman dans les années 70. Il reprenait une expression d'un romancier américain dans un livre qui avait été publié un peu plus tôt. Cette phrase, c'est « There's no such thing as a free lunch. En gros, un repas totalement gratuit, ça n'existe pas. Et ben, je trouve que ça résume assez bien la situation.
Voilà, et puis pour terminer, je redonnerai la phrase du maire de Dunkerque, tout ce qui est important pour nous est gratuit. Allez, beaucoup de choses à méditer en tout cas au terme de cette émission. Merci à vous tous. Demain, 7 milliards de voisins, c'est Chantal Leroux qui présentera l'émission Éducation, comme chaque vendredi. Comment les enfants apprennent à écrire, si possible pas de manière illisible. Pourquoi la calligraphie est importante dans le développement de l'enfant. Et bien sûr, vous aurez la parole comme tous les jours. À demain les voisins.